Bienvenue à tous. Au sommaire cette semaine, un contentieux médical entre la France et le Québec. La belle province freine l'installation de médecins français chez elle, malgré un accord signé en ce sens. Explication de Benoît Audet. Deux élèves musulmans autorisés à ne pas serrer la main de leur enseignante. Décision prise dans une école en Suisse qui suscite la controverse. Récit de Pierre Enchauffat. Quatre jours de pagaille sur les routes de Belgique. Mobilisation des chauffeurs routiers contre la taxe kilométrique, nous dira Nathalie Devic à Bruxelles. Et puis à Paris, la présentation officielle des médias francophones publics, nouvelle entité qui inclut nos quatre radios, mais aussi les télévisions. Détail avec Annette Ardisson. Le Québec ferme la porte à près de 200 médecins français, malgré une entente signée en 2008 qui prévoyait de faciliter la vie aux médecins des deux côtés de l'Atlantique. Benoît Audet, il semble vraiment y avoir deux poids, deux mesures.
Oui, cette entente signée en grande pompe en marge du sommet de la francophonie en 2008 devait permettre aux médecins québécois d'obtenir un permis et de pratiquer en France en moins de deux mois. Pour les Français qui viennent au Québec, c'est beaucoup plus difficile. Ça prend souvent plus de deux ans et ça crée beaucoup de frustration. Voici le témoignage du docteur Gilles Caruel qui en a long à dire au sujet de l'entente France-Québec.
Elle sert à rien parce que notre diplôme est reconnu, mais on ne peut pas travailler. Les autorités, les facultés, le collège des médecins donnent priorité aux Québécois, ce qui me paraît tout à fait logique. Ce que je ne comprends pas, c'est sur des postes vacants. Pourquoi ne pas justement les ouvrir entre guillemets, un peu plus simplement aux médecins étrangers dont le diplôme est reconnu.
Ce qui pose problème également, ce sont les conditions imposées aux médecins français.
Oui, les médecins qui viennent au Québec sont sous supervision pendant 5 ans, une situation que dénonce le docteur Jackie Hare. Il est secrétaire général adjoint de l'Ordre national des médecins français.
Ce qui me dérange surtout, c'est qu'on se comporte avec eux comme si c'était des étudiants, alors que ce sont des médecins confirmés qu'on leur envoie.
On dit qu'il y a un manque de ressources, qu'il manque de professeurs pour superviser la formation et l'intégration. En attendant, et au-delà de l'accord de reconnaissance, un fait demeure, 2 millions de Québécois n'ont pas de médecin de famille.
Une grande partie de la Belgique paralysée cette semaine par des camionneurs, Nathalie Devic, des chauffeurs routiers en colère contre la taxe kilométrique.
Près de 4 jours de blocage d'accès d'autoroute, de grands axes et surtout de zoning industriel qui ont empêché l'approvisionnement de plusieurs stations essence et magasins et poussé finalement le ministre de l'Intérieur à envoyer la police lever les barrages. Le bras de fer n'est pas pour autant réglé. Les conducteurs routiers exigent la suppression de la taxe sur les routes nationales et un montant revu à la baisse pour les petits transporteurs. Le ministre wallon des Travaux publics, Maxime Prévost, refuse, arguant d'un tarif déjà bien inférieur à nos voisins.
C'est une redevance qui est déductible fiscalement à l'impôt des sociétés et donc les chiffres que l'on entend ne sont pas des coûts nets pour les transporteurs.
Un coût difficile à comparer entre pays vu la différence des systèmes entre vignettes, péages et taxes. Pour un trajet de 100 km par exemple, un 40 tonnes doit à présent s'acquitter en Belgique de 12,80 € contre 15,60 € en Allemagne et 27 € en Pologne, des pays qui appliquent eux aussi la taxe kilométrique. En Espagne, Italie ou France, qui ont opté pour les péages autoroutiers, ce même camion en aura pour 24,50 € en 100 km sur le tronçon Lille-Paris, des tarifs variables selon les endroits. Il y a 3 ans, la France avait d'ailleurs voulu ajouter une écotaxe, mais elle a soulevé un tel tollé, les bonnets rouges en Bretagne avaient tout bloqué, que le gouvernement a dû y renoncer. Le Luxembourg ou encore les Pays-Bas conservent pour leur part l'eurovignette, comme nous, avant, un forfait annuel de 1 250 €. L'Irlande reste à peu près aujourd'hui un des rares à ne rien faire payer.
Et on peut noter que cette taxe kilométrique existe déjà en Suisse depuis 15 ans, Pierre Enchauffat.
Oui, précurseur en Europe, la Suisse la prélève depuis 2001 sur tous les poids lourds, qu'ils soient suisses ou en transit, et sur l'ensemble du réseau routier. Il s'agit d'un élément clé de la politique des transports voulue par le peuple contre l'avis des camionneurs, avec cette ambition forte de transférer le trafic marchandises à travers les Alpes, de la route au rail. Et l'ouverture cet été du tunnel ferroviaire de base au Gothard devrait aider à mieux concurrencer la route. Un tunnel d'ailleurs partiellement financé par cette taxe poids lourd.
Et elle coûte cher, cette taxe ?
Eh bien, objet d'une longue négociation avec l'Union européenne, son montant a été fixé pour que les quelques 300 km pour traverser la Suisse de Bâle à Chiasso ne dépassent pas 325 francs suisses. Un montant qui n'est pas épuisé à ce stade. Pour un 38 tonnes, il faut compter 85 francs, 77 euros aux 100 km, avec toutefois des rabais pour les camions les moins polluants.
On reste en Suisse avec cette autre actualité, la dispense accordée à deux élèves musulmans d'une commune baloise qui provoque un tollé. Le directeur de l'école les a autorisés à ne pas serrer la main de leur enseignante.
Oui, ces frères de 14 et 15 ans ont invoqué leur croyance pour revendiquer ce statut à part. Une poignée de main, cela peut paraître anodin, mais ce cas est emblématique du débat sur le vivre ensemble, d'où la virulence des réactions contre la décision du directeur d'une école publique. La conseillère fédérale en charge de l'intégration, Simonetta Sommaruga elle-même, est intervenue pour condamner une telle dispense.
Un enfant qui ne donne pas la main à son prof, ça ne va pas. Ça ne va pas avec notre culture et ce n'est pas comme ça que moi je m'imagine l'intégration dans notre pays.
Défenseur d'une ligne pour le moins rigoriste, le Conseil central islamique, très minoritaire en Suisse, estime lui qu'on doit respecter ce choix religieux des élèves. Une attitude offensive qui heurte donc le respect des coutumes locales et qui a poussé le canton de Bâle à commander une expertise juridique. Il pourrait en résulter une directive qui codifierait noir sur blanc que chaque élève serre la main de son enseignant, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
Parlons de nous maintenant, nous les médias francophones publics, puisque c'est le nouveau nom de cette association créée cette semaine. Un nouveau nom mais aussi de nouveaux partenaires, Annette Ardisson.
Oui, parce que le cercle de famille s'agrandit. Au départ, en 1955, il y a eu la communauté des radios publiques de langue française, devenue en 2002 l'association des radios francophones publiques. En 1966, ce sont les télévisions françaises, suisses, belges et canadiennes qui se sont associées pour créer la CTF, la communauté des télévisions francophones. Aujourd'hui, les deux entités fusionnent pour former donc les médias francophones publics, les MFP, 9 acteurs au total avec les chaînes francophones internationales.
Alors pourquoi cette alliance ?
Eh bien parce que de plus en plus, avec le numérique, nos métiers se rejoignent. C'est ce qu'on appelle la convergence. La radio devient visuelle avec des photos et des vidéos sur votre mobile. La télévision gagne en agilité et en interactivité. Et les deux doivent faire face à la concurrence de nouveaux acteurs nés du numérique, comme l'explique Éric Poivre, le secrétaire général des MFP.
Nous sommes aujourd'hui, médias de service public, confrontés à un contexte concurrentiel et économique particulièrement compliqué. Le constat était fait qu'il y avait un véritable besoin de convergence des médias. Alors cette convergence, elle a des vertus. Tout d'abord, celle de consolider nos audiences avec une addition des publics qui nous offre une forme de légitimité et puis avec une circulation des contenus et des programmes entre les différents médias qui leur offre une plus grande visibilité et c'est important pour des médias qui produisent des contenus avec des deniers publics.
Nous allons donc élargir nos sources de coproduction, de partage d'informations, vous avez déjà pu l'entendre lors des récents attentats, ainsi que nos expertises techniques.
Mais pour l'instant, ça concerne les radios et télé du Nord, l'Afrique francophone n'est pas concernée.
Pas tout à fait, mais on en parle quand même. Il existe une autre structure de coopération avec le Sud, c'est le CIRTEF, le Conseil international des radios et télévisions. À terme, on souhaite que les deux se rejoignent, mais pour les pays du Sud, c'est encore un problème de coût et pour certains de liberté d'expression.
C'était les faits marquants de la semaine dans nos médias francophones publics. Merci à tous et à la semaine prochaine.